France Culture.
Les nuits de France Culture.
Tragique destin que celui de Lili Boulanger, compositrice de génie, morte en 1918 à l'âge de 24 ans, d'une tuberculose intestinale. Sa vie fut très intense et bien trop courte, marquée autant par la maladie que par son incroyable talent musical. En 1913, à l'âge de 19 ans, elle devient la première femme à remporter le Grand Prix de Rome de composition musicale, devant un jury connu pour sa misogynie. Un talent tel, même pour les plus réticents et les plus conservateurs, était tout simplement indéniable. C'est une existence fulgurante et éblouissante que vient raconter Jean Français au micro de Franck Mallet, dans ce deuxième temps de la série de Rythme et Raison, consacrée à Lili Boulanger donc, diffusée pour la première fois le 28 septembre 1993. Avec des archives notamment de Nadia Boulanger et d'Igor Markevitch, cette émission navigue dans les marasmes du souvenir et de l'œuvre de Lili Boulanger, permettant aux auditrices et auditeurs de découvrir et le personnage et l'œuvre d'une étoile filante de la musique classique du XXe siècle.
Souvenir pour cette seconde émission avec, grâce aux archives de l'INA, le témoignage de la sœur cadette de Lili Boulanger, Nadia, célèbre pédagogue et chef d'orchestre, puis le témoignage d'Igor Markevitch qui a enregistré plusieurs partitions pour chœur et orchestre. Enfin, pour débuter cette émission, Jean Français se souvient de la boulangerie et du disque des clairières dans le ciel où il accompagnait au piano le ténor Éric Tapie.
Nadia Boulanger me tournait les pages et nous a fait travailler à mort. Elle nous a enquiquinés, pour dire le mot. Et c'est là qu'on voit la passion qu'elle avait pour sa sœur, parce que, évidemment, le résultat était excellent. J'ai l'impression qu'elle jouait à travers mes doigts, vous comprenez ? Elle me guidait en pensée, c'était très amusant.
Nadia Boulanger avait la réputation d'être un professeur assez sévère, qui a eu beaucoup, beaucoup d'élèves, qui a fait travailler énormément de compositeurs ou d'interprètes. Est-ce que c'est une réputation que vous confirmez ?
Ça dépend. Vous savez, quand on était de bonne volonté, elle n'était pas si sévère que cela. Et moi, je peux vous dire personnellement qu'elle a essayé en vain de m'apprendre l'harmonie et le contrepoint, mais ça m'embêtait tellement que je pratiquais la technique de l'édredon et j'attendais qu'elle ait corrigé mes innombrables fautes de quinte et d'octave pour qu'on se mette au piano et qu'on joue à quatre mains des œuvres de Schubert ou de Mozart. Et pour moi, c'est là que la leçon véritablement commençait. Et alors là, elle était extraordinaire. Parce qu'elle était la musique même, elle changeait de style avec chaque auteur. Enfin, c'était vraiment. D'un côté, j'avais Isidore Philippe, quand j'étais au conservatoire, qui m'a appris la technique du piano. Et Dieu sait qu'il était sévère. Et Nadia Boulanger m'a appris beaucoup en interprétation.
Alors, est-ce qu'elle vous faisait travailler les œuvres de sa sœur Lili ?
Non. La seule fois que je les ai vraiment travaillées, c'est pour ce disque. Avant, non. Ah non, elle était très discrète d'ailleurs sur le. Non, elle considérait qu'étant un compositeur, elle devait tout centrer sur la personnalité qu'elle devinait en moi, parce qu'elle avait quelque chose du devin. D'ailleurs, c'est elle qui a formé Aaron Copland, aussi Bernstein, je ne sais pas combien, Markevitch.
Un nombre incalculable de compositeurs.
Et des gens à l'esthétique très, très diverse.
Quand vous avez travaillé et enregistré donc cette partition de Clairière dans le ciel de Lili Boulanger, est-ce que vous m'aviez dit à l'instant que Nadia Boulanger voulait des choses très très précises, est-ce que vous pourriez un petit peu détailler la manière dont vous avez travaillé avec Nadia Boulanger ?
Pour ce disque, ça c'est un petit peu difficile parce que ça n'était pas seulement une question de tempi, une question de technique de piano, c'était ce qu'il y a entre les lignes. Et c'est précisément ce dont il est extrêmement difficile de parler. C'est-à-dire qu'elle était d'une intuitive, comme d'ailleurs la plupart des grands artistes. Et elle était un espèce de pont entre le professeur et le compositeur. Elle participait des deux, vous comprenez ? Elle était un petit peu professeur, mais elle était surtout directrice de conscience.
Elle était descendue au bas de la prairie. C'est toute fleurie de plantes dont la tige m'a poussé dans l'eau. Ces plantes inondées, je les avais cueillies. Campagnale une cette prairie-là qui était toute fleurie. Elle riait et s'ébrouait avec la grâce les jargons durs qu'ont les jeunes filles.
C'est également à l'initiative de Nadia Boulanger qu'Igor Markevitch enregistre durant les années 60 un certain nombre d'œuvres pour soliste, chœur et orchestre de sa sœur Lili Boulanger.
Pour moi, c'est totalement incompréhensible que Lili Boulanger ne soit pas plus connue, et surtout du monde musical français. On connaît son nom, mais on la traite avec beaucoup d'indifférence. Or, c'est un personnage absolument passionnant pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est la première femme musicienne qui ait atteint un niveau aussi élevé. C'est la première femme, d'ailleurs, qui ait eu le Grand Prix de Rome, à 19 ans, ne l'oublions pas. Et Lili Boulanger est une personnalité à tout point vraiment attachante. Ce fut d'abord une espèce de prodige de précocité. Vers 7-8 ans, elle jouait déjà de 4 ou 5 instruments, dont l'orgue, le piano, le violoncelle. Malheureusement, très tôt, on se rendit compte que Lili était de santé très fragile. Elle était belle, elle était très distinguée par son père. Elle était française, c'est-à-dire qu'elle descendait des Boulangers, qui était une famille très musicienne, très cultivée, et par sa mère, qui était princesse Michetsky, de la noblesse russe. Elle a gardé toujours dans son aspect un peu ses deux origines. Elle était d'une part très française dans son comportement, et assez russe dans son aspect. Elle a l'air, à mon avis, d'un personnage de Tolstoï. Vers 15-16 ans, elle put entreprendre des études vraiment sérieuses et devint très brillante élève du conservatoire. Et pourtant, elle avait commencé relativement tard, justement pour des questions de santé. Elle n'avait pas pu suivre un entraînement aussi fort et aussi complet que sa sœur aînée Nadia. Néanmoins, les dispositions qu'elle montra furent si extraordinaires qu'après quelques premières œuvres qui frappent par leur netteté, par leur achèvement et leur qualité de réalisation en général, aussi par leur sonorité orchestrale, Lili se présente pour le Grand Prix de Rome avec la cantate Faust et Hélène qu'elle écrit à 18 ans. Faust et Hélène est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre admirablement réussie. Nadia a dû en achever, en revoir certains petits passages que Lili aurait voulu revoir elle-même, mais en général, l'œuvre est restée telle qu'elle fut primée par le jury du Grand Prix de Rome. Notons aussi que ce jury était connu pour sa misogynie et qu'il y avait certainement beaucoup plus de misogynie que de galanterie parmi ces messieurs. Et Lili a surmonté ça d'une manière absolument remarquable et en gardant toujours une tranquillité, on pourrait presque dire une tranquillité princière. Elle était vraiment d'un calme et d'une sérénité très frappante chez une aussi jeune fille. Jamais aucune impatience, jamais aucune nervosité. Elle était connue pour cela, alors que déjà elle était fort malade et que, comme on sait, la maladie peut quelquefois fatiguer les nerfs de quelqu'un. Cette œuvre frappe par la profondeur avec laquelle est traité l'aspect que Goethe a donné à Faust, l'aspect principal, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui va dans le pays des ombres, guidée par une recherche passionnée de la connaissance. Cet aspect de Faust et Hélène montre déjà à quel point Lily, au fond, était peu de ce monde. Savait-elle qu'elle allait mourir très jeune? Il ne semble pas. Par les photos, on voit une ravissante jeune fille, très élégante, probablement même assez coquette. Et d'après tout ce qu'on sait d'elle, elle a gardé toujours une certaine gaieté que je pourrais presque décrire comme une gaieté sérieuse. C'est-à-dire qu'elle restait toujours très calme, mais avec un fond de tranquillité souriante qui est frappante aussi dans ses portraits. Ensuite, elle a composé des œuvres surtout religieuses et surtout chorales. Ce qui frappe dans ses œuvres, nous allons entendre Du fond de l'abîme, qui est probablement son chef-d'œuvre, que beaucoup appellent à son De profondis. Eh bien, dans cette œuvre-là, on est frappé, et Florent Schmitt le notait déjà en 1922 ou 23, c'est par la nouveauté et l'originalité du système harmonique. Cette jeune fille avait vraiment beaucoup inventé. Et Du fond de l'abîme nous a tous frappés quand nous l'avons enregistré, parce que l'orchestre, les solistes, le chœur, moi, nous étions frappés par l'extrême originalité de cette œuvre qui, au fond, ne doit presque rien à l'époque où elle a été écrite. Elle ne doit rien à Stravinsky, elle ne doit rien au groupe des Six qui était contemporain. Elle est tout à fait tournée, si je peux dire, vers le ciel, mais aussi vers un ciel musical qui est très particulier et qui appartient à Lily.
Nadia Boulanger.
Qui est-ce qui s'occupe ? Igor Markevitch est toujours là, fidèle comme il l'a été depuis que je le connais. C'est très long. Et ce sont des gens qui ont l'âge de ma sœur. Or, elle était consciente de sa destinée très courte. D'une part, elle anticipait sur sa mort, bien plus tranquille que nous ne sommes aujourd'hui pour en parler. Et elle avait été marquée à 6 ans par la douleur, car elle avait compris à la mort de notre père ce qu'elle perdait. Elle avait donné le meilleur de son cœur, de son activité, en des pensées d'une gravité qui eût été exceptionnelle si elle avait eu 20 ans et qui était bouleversante chez une toute petite fille. Par ailleurs, fragile, par ailleurs délicate, souvent malade, et éclairée par cette douleur. Je ne dis pas marquée par cette douleur, mais éclairée. Et dès ses 7-8 ans, elle avait toujours pensé à écrire une œuvre à la mémoire de son père. Et certains des thèmes sont trouvés dans les papiers de l'enfant qu'elle était. Il y a là quelque chose de si intime, de si profond, avec une telle pureté. Je crois que les gens ont un peu peur devant ces qualités émanant d'un être extrêmement silencieux, gai, prêt à participer au plus charmant de la vie comme au plus sérieux, avec au fond une telle intensité. Il ne semblait pas pouvoir naître autour de Lili Boulanger rien qui ne fût noble. Je ne veux pas dire que les gens sont inaccessibles à ça, mais ils ne sont pas habitués à considérer la vie si sérieusement. J'ai une hésitation que je n'arrive pas à vaincre sur la publication de certaines lettres. Il n'y a pas eu l'ombre d'un secret dans la vie de ma sœur. Elle n'est jamais sortie seule, ne le voulant pas. Mais j'ai l'impression qu'en montrant ses lettres, elle me dirait « Comment ? Je t'ai écrit à toi et tu le montres à tout le monde. » J'ai peut-être tort. Peut-être elle a enfermé son œuvre dans le silence parce que la musique comptait seule. Jamais la moindre révolte, mais la nécessité impérieuse, intérieure, de dire ce qu'elle avait à dire. Et elle se soignait non pas pour vivre plus longtemps, mais espérant avoir dit ce qu'il lui restait à dire, et pas comme une confidence, comme l'expression de la musique qui sourdait en elle, en dehors de toute espèce d'effet extérieur. Elle écrivait parce qu'elle avait à parler. Elle avait à parler le langage inaccessible qui est le langage de l'art. L'artiste crée un objet qui est indépendant de lui qu'il crée, de celui qui l'écoute, c'est l'objet en soi qui devient important. Et nous éprouvons ça avec toutes les œuvres qui ont retenu notre attention. C'est l'œuvre qui domine. Nous disons Leonardo, mais nous voyons des tableaux. Nous disons Michelangelo, nous voyons des sculptures. Nous disons Dante, et nous voyons des mots. Et nous voyons des mots d'une importance qui font la grandeur de Dante, mais non pas la personnalité. Dante a compris, Michel-Ange a compris, Leonardo da Vinci a compris, mais d'une manière antipersonnel, impersonnel, c'est l'œuvre qui comptait. Et ça, il prend du temps d'oublier le destin si douloureux de Lili Boulanger pour ne s'occuper que de son œuvre.
Eternal desire.
s'est fondée une société à Boston qui, depuis 1939, donne chaque année un prix. De sorte que beaucoup des jeunes qui ont aujourd'hui une situation importante ont eu la bourse Lili Boulanger. Il y a quelque chose de très émouvant. Il y a en Angleterre un jeune compositeur qui n'a aucun moyen financier, qui a organisé il y a 2 ans maintenant un premier concert à Cambridge, en Angleterre. Quand il l'a projeté, je lui ai dit, mais mon petit, c'est impossible, vous n'avez pas les moyens, il faut un grand chœur, un orchestre, des solistes. Oh, je crois que je le ferai. 15 jours après, il m'a donné la date, il m'a dit, j'ai tenu ce soir au mois de mars, parce que votre sœur est morte en mars. J'ai été à Cambridge l'année dernière, dans une de ces merveilleuses chapelles. On a donné un concert des œuvres de Lili Boulanger. Et ce jour-là, il m'a dit, l'année prochaine, ce sera à Londres. Cette année, ça a été à Londres. Il projette déjà le concert pour l'année prochaine.
Boulanger, compositeur, Marie-Cécile Mazzoni, Bernard Laniel. Demain, l'œuvre vocale présentée par Olivia Matisse et Anne-Grethe Fauser.
C'était le deuxième temps de la série de Franck Mallet pour Le rythme et la raison, consacré à Lili Boulanger, avec Jean Français, des extraits des œuvres de Lili Boulanger et la voix de Nadia Boulanger et d'Igor Markevitch. Première diffusion le 28 septembre 1993.